Dans notre itinéraire sur les systèmes, on pourrait dire moraux, nous avions commencé avec l'épicurisme. Voyant son caractère trop centré sur l'individu, on l'a élargi jusqu'à l'utilitarisme. Voyant les impasses, pourrait-on dire, de l'utilitarisme du fait de sa logique, on pourrait dire, calculatoire et de sa prétention à saisir l'avenir, on s'est tourné vers le stoïcisme qui, lui, au contraire, s'attache plutôt, même si le stoïcien est un homme d'action, mais s'attache d'abord à une certaine forme d'intériorité, retrouve certains aspects d'ailleurs de l'épicurisme, de tranquillité de l'âme. Mais on s'était rendu compte aussi que si la tranquillité de l'âme devenait un absolu, eh bien on pouvait très facilement basculer dans l'inverse, c'est-à-dire dans la démence, dans la coïncidence de soi avec l'agitation, la tourmente. Et on avait conclu par une comparaison entre Sénèque, le stoïcien, et le marquis de Sade, sachant que Sade, à travers certains de ses personnages, notamment dans sa grande histoire de Juliette, un personnage qui s'appelle Claire Will, tient des propos qui ressemblent au stoïcisme, où il s'agit d'imiter la nature, comme dans le stoïcisme, sauf que, dans l'entretemps, la nature n'est plus un cosmos. Elle est devenue cette marâtre qui ne cesse de produire des êtres pour les détruire. Et dès lors, imiter la nature, c'est épouser cette sorte de criminalité, voyez, sous-jacente à la nature elle-même. Et une fois qu'on devient soi-même, vous voyez, c'est intéressant parce que juste Sade est un penseur des Lumières encore, mais du négatif des Lumières. C'est-à-dire qu'il est un penseur des Lumières au sens où, comme Rousseau, il va revendiquer la nature. Vous voyez. Sauf qu'il a une vision de la nature qui est précisément inverse à celle de Rousseau. La nature est bonne, vous savez, chez Rousseau, la nature humaine aussi, hein, et puis c'est la société qui corrompt les individus, etc. L'état de société étant un état d'artifice. L'idée de Sade, c'est que la nature est intrinsèquement perverse et qu'il faut la vertu, si vous voulez, encore une fois stoïcienne, enfin reprenant le précepte stoïcien premier, imiter la nature, imiter le cosmos, vous voyez, il faut imiter cette nature perverse, donc être pervers nous-mêmes. Et une fois qu'on s'est abîmé, si vous voulez, dans le crime, dans l'horreur, aucune horreur ne peut plus nous toucher. Et on a tellement épousé l'horreur et la criminalité que lorsqu'elle advient, elle ne nous surprend plus. Et c'est curieux comment on a ici une stratégie qui est apparemment aux antipodes de Sénèque, encore que Sénèque soit le Sénèque le tragique nous laisse entrevoir ça. Mais cherche à aboutir au même résultat, à la même tranquillité intérieure. Alors, il semblerait que, dès lors, la morale ne soit pas affaire de calcul des conséquences. Ça, c'est le premier point que nous avons établi. Et de l'autre côté, que la morale ne soit pas affaire de paix intérieure. Et que même, elle nous impose, on pourrait presque dire, une certaine tension permanente. Parce qu'elle nous demande, au nom du devoir, d'obéir à une loi qui est plus grande que nous. Alors pour penser cela, bien sûr, hein, vous voyez, il y a beaucoup d'artifices dans ce cours parce que l'idée d'articuler nos lectures morales comme des systèmes qui ont des problèmes, et puis alors on cherche des débouchés, on passe à un autre système, comme ça, vous voyez, ce mode un petit peu hegelien de présentation, c'est un peu de la construction, parce que ça nous empêche aussi parfois de voir ce qu'un auteur a en propre. Vous voyez, il n'était pas là simplement pour répondre à un autre et se situer sur le même terrain, c'est pas l'enjeu. D'autant que là, nous abordons un auteur qui est un des plus grands philosophes de l'histoire universelle. Dire que c'est un des plus grands, ça veut dire qu'il a toutes les qualités et tous les défauts d'un grand philosophe. Il est célibataire, comme la plupart des grands philosophes, hein, donc de Héraclite à Nietzsche, en passant par Platon, etc. Enfin, ah bon, ça c'est, je vous ai déjà, j'ai déjà insisté sur cette question-là. Vous savez que comment se fait-il que la philosophie soit le fait de célibataires en grande partie, en tout cas la philosophie antique et classique, classique surtout. Et qu'est-ce que ça induit peut-être dans la manière de penser, jusqu'à même des philosophes qui nous disent, vous l'avez dit, mieux vaut ne pas se marier. D'une certaine façon, on voit même que à partir du moment où la philosophie s'est posée comme poursuite du bonheur ou de la paix intérieure, on ne pouvait plus se marier. C'était une évidence. Ni avoir d'enfant. Et donc c'est assez, assez curieux. Bon, enfin bon, donc célibataire, bien sûr. Et celui qui a eu un impact incroyable sur la philosophie, je dirais, moderne, le plus grand ou le plus important, avec Descartes, si vous voulez, de telle sorte que ceux qui ont suivi n'ont cessé de régler des comptes avec lui. Donc j'ai nommé Emmanuel Kant, qui a une pensée morale très séduisante, au point que, enfin le mot est peut-être pas approprié, au point que même on pourrait voir dans cette morale, dans cette manière de concevoir en tout cas la morale, vraiment une forme d'explicitation philosophique du christianisme. D'abord, je vous rappelle que Kant, vous savez, est un des grands critiques de la métaphysique. Il dira que, par exemple, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. On ne peut pas prouver, ce qui en fera un objet, d'après lui, d'une certaine façon. On ne peut pas prouver l'existence d'une âme immortelle. On ne peut pas, voyez, des choses de ce genre. Hein, bon. Et donc, critique profonde de la métaphysique, la philosophie étant ramenée à une compréhension de ce qui est simplement de l'ordre des phénomènes. Nous n'atteignons pas l'essence profonde des choses, mais nous saisissons des objets à partir des catégories de notre entendement. Cependant, Kant est celui qui dira aussi « Tout ce que j'ai retiré à la raison, c'est pour le donner à la foi. » Ce qui est d'ailleurs une très mauvaise stratégie, puisque ça supposerait que les deux seraient sur le même plan et que ce serait un système de vases communicants. Enfin bon. Et il n'y a pas de métaphysique comme philosophie de l'être chez Kant, mais il y a une métaphysique des mœurs. C'est-à-dire que le lieu où la raison touche à la réalité plus profonde, c'est la morale. Ça n'est pas dans son activité spéculative que la raison touche aux profondeurs de l'être, c'est dans son activité pratique. Donc, la morale occupe une position fondamentale chez Kant, la plus importante. On pourrait dire que Kant est celui qui a, d'une certaine façon, érigé la philosophie pratique au plus haut rang. Telle sorte que la philosophie pratique est la vraie métaphysique. Il n'y a pas de métaphysique spéculative, mais il y a une métaphysique des mœurs. Enfin, il écrira les fondements de la métaphysique des mœurs. Dans certains textes de Kant, notamment les textes qui concernent la théodicée, c'est-à-dire la justification de l'existence de Dieu, notamment face à l'existence du mal. Théodicée, ça veut dire justification de Dieu, hein, ça s'écrit T-H-E-O-D-I-C-E. Ça vient de dike, qui veut dire la justice. Hein, voyez. Donc une théodicée, c'est un discours qui cherche à justifier Dieu. C'est dit, c'est paradoxal, parce que normalement c'est Dieu qui nous justifie. Vous voyez, bon, déjà on est mal parti quand on cherche à justifier Dieu. Mais enfin, c'est très courant chez les chrétiens d'essayer de justifier Dieu alors que c'est lui qui nous justifie. Et donc forcément de se mettre dans l'embarras au bout d'un moment. Mais il n'en demeure pas moins que dans un de ces textes, Kant s'arrête sur le livre de Job et sur les amis de Job. Et il se rend compte que les amis de Job ont un discours assez spéculatif sur Dieu. Ils cherchent à défendre Dieu. Oui. Et l'intuition qu'a Kant face à ce texte, c'est de dire, mais au fond, avoir des discours spéculatifs sur Dieu, c'est... et chercher une vérité spéculative sur Dieu, ça ne mène à rien. Ça ne mène absolument à rien. Vous êtes comme les amis de Job. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des pharisiens. Vous dites, mais vous ne faites pas. Et dès lors, le contact avec Dieu pour Kant ne se fait pas par l'intelligence, si vous voulez, au sens d'un discours vrai qui coïnciderait avec le réel, mais par l'action bonne. C'est l'homme de bonne volonté, c'est l'homme juste qui est dans une vérité, mais dès lors, ça n'est plus qu'une vérité pratique, si vous voulez, alors, c'est plus une vérité spéculative, une vérité pratique sur Dieu. À la limite, peu importe qu'on sache démontrer ou pas que Dieu existe, l'important, vous voyez, c'est d'agir bien. Et que Dieu soit finalement l'idée qui nous conduise à la bonne action. Mais qu'il ne soit pas simplement, vous voyez, l'objet d'une science. Vous voyez, d'une certaine façon, Kant critique l'idée d'une science spéculative de Dieu pour nous dire les choses les plus essentielles, nous les atteignons à l'intérieur de l'action bonne. La preuve de ça, c'est que justement, les amis de Job ont peut-être des discours vrais spéculativement sur Dieu, mais ils sont à côté de la plaque. Voilà la thèse de Kant. Hein. Donc, il y a vraiment une réflexion profonde hein, chez Kant, il ne faut pas croire, hein, dans sa critique de la métaphysique, comme pouvant être un rapport presque, je dirais, démoniaque au divin. Vous voyez, la métaphysique, c'est « j'ai des connaissances, je sais qui tu es, toi ». Comme disent les démons à Capharnaüm, hein, « le tu es, voilà, le Saint de Dieu ». D'accord, mais ça veut dire que ça n'est pas là que se joue la vérité et que ça n'est pas ça qui importe. Alors bien sûr, hein, ce que je suis en train de vous dire là est éminemment discutable. Je ne suis pas en train de... je vous expose simplement ce que dit Kant. Hein. Je vous dis pas qu'il a raison. Moi, mes avis, que là-dessus, il se trompe gravement. Mais, si vous voulez, il y a des choses vraies hein, dans ce qu'il dit. Et là, j'essaie de vous présenter la démarche. Dès lors, vous voyez, chez lui... la morale a un caractère central. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, Kant est devenu un auteur incontournable en morale, et même qu'on a pu identifier, on pourrait dire, la loi chrétienne à la forme de l'impératif catégorique chez Kant. Alors, la première chose, c'est que Kant a très bien vu la bêtise profonde du conséquentialisme. L'idée qu'une action est bonne si ses conséquences sont bonnes. C'était quand même ça, hein, l'idée de l'utilitarisme. Il faut que les conséquences de l'action soient bonnes. Alors, voilà ce qu'il dit d'abord. Il fait une remarque, je dirais, en amont hein, du problème. C'est au début de la métaphysique des mœurs qui déjà considère cette question-là de l'utilitarisme, en tout cas du conséquentialisme, avant même que l'utilitarisme, d'ailleurs, ne soit constitué comme tel. Voilà ce qu'il écrit. Dans la constitution naturelle d'un être organisé, c'est-à-dire d'un être conformé en vue de la vie, nous posons un principe qu'il ne se trouve pas d'organe pour une fin quelconque qui ne soit du même coup le plus propre et le plus accommodé à cette fin. Ça, il faut se souvenir d'une phrase comme ça chez Kant, parce qu'il parle comme Aristote ici. La nature ne fait rien en vain. Alors, c'est le fameux adage aristotélicien. Donc, quand un être est organisé en vue de la vie, il est bien organisé, il a ce qu'il lui faut, quoi. En gros, c'est ça. Pour mener sa vie spécifique, la vie de son espèce. Bien sûr, si vous cherchez à mener une vie angélique, il vous manquez des trucs. Mais voilà, pour vivre en tant qu'homme, et un chien pour vivre en tant que chien, et un arbre pour vivre en tant qu'arbre, a tout ce qu'il lui faut. Voilà ce qu'il laisse entendre. Or, si dans un être doué de raison et de volonté, la nature avait pour but spécial sa conservation, son bien-être, en un mot son bonheur, elle aurait bien mal pris ses mesures en choisissant la raison de la créature comme exécutrice de son intention. Alors écoutez ce passage absolument formidable. Si vous commencez à penser que la finalité de la morale et donc de l'action raisonnable, c'est la conservation, le bien-être, le bonheur. Remarquez ici que le bonheur est identifié au bien-être. Vous avez cette phrase, son bien-être, en un mot, son bonheur. Bon. Conservation, bien-être, bonheur. Bon. Eh bien, si c'était ça, il est certain que la raison n'aurait pas été la bonne faculté. Donc, il laisse entendre ici que la finalité de la morale n'est pas le bonheur, le bien-être, on n'est pas un épicurien, n'est pas la conservation, n'est pas même la satisfaction des intérêts. D'ailleurs, on n'est pas dans l'utilitarisme. Car toutes les actions que cet être doit accomplir dans cette intention, ainsi que la règle complète de sa conduite, lui auraient été indiquées bien plus exactement par l'instinct, et cette fin aurait pu être bien plus sûrement atteinte de la sorte qu'elle ne peut jamais l'être par la raison. Alors, le raisonnement est ici le suivant. Si le but, c'était la conservation et le bien-être de notre espèce, nous n'avions pas besoin de raison. L'instinct suffisait. Nous aurions dû avoir un instinct. Et y a autre chose qui se joue avec la raison, forcément. Une raison qui s'interroge, une raison qui est ouverte d'ailleurs à l'universel. Donc quelque chose même qui dépasse le bien de notre espèce. Si on connaît l'universel, on ne s'arrête pas à ce qui nous est simplement spécifique. Si vous arrêtez à ce qui est spécifique, un instinct suffit. Mais si vous allez au-delà du spécifique, si vous avez une faculté ouverte à l'universel, à ce moment-là, vous voyez, c'est plus le bien de l'espèce que vise la raison. Il y a quelque chose de plus grand. Et si, à une telle créature, la raison devait par surcroît échoir comme une faveur, elle n'aurait dû lui servir que pour faire des réflexions sur les heureuses dispositions de sa nature, pour les admirer, pour s'en réjouir et en rendre grâce à la cause bienfaisante, mais non pour soumettre à cette faible et trompeuse direction sa faculté de désirer et pour se mêler gauchement de remplir les desseins de la nature. Autrement dit, si on avait eu donc cet instinct, on aurait eu une raison, mais qui serait là juste pour nous féliciter d'être aussi bien constitués, si vous voulez. En un mot, remarquez que ce raisonnement est valable, mais en même temps, ramener la raison à une faculté de louange, de dire ouais, regardez comme c'est bien foutu, regardez c'est bien l'humanité, tout. Ce serait déjà beaucoup. On a l'impression que ce n'est pas ça qui intéresse Kant, en tout cas. En un mot, la nature aurait empêché que la raison n'allât verser dans un usage pratique et n'eût la présomption, avec ses faibles lumières, de se figurer le plan du bonheur et des moyens d'y parvenir. La nature aurait pris sur elle le choix, non seulement des fins, mais encore des moyens mêmes, et avec une sage prévoyance, elle les eût confiés ensemble, simplement, à l'instinct. Autrement dit, ce que nous dit Kant, c'est que si la tâche de la raison pratique, c'est de se figurer le plan du bonheur et des moyens d'y parvenir, comme le pensait, si vous voulez, l'épicurisme, aussi bien que l'utilitarisme, comme conséquentialisme. C'est-à-dire, je dois calculer, je dois prévoir un plan, et puis je dois voir comment je vais y arriver, etc. Eh bien, si c'était ça, la raison n'est vraiment pas une faculté très brillante. Parce qu'on voit bien qu'elle est trop faible pour opérer un tel calcul. C'est précisément le reproche qu'on avait fait à Peter Singer. Vous vous souvenez, hein? Donc, Kant est parfaitement conscient de ce problème-là, et c'est justement parce qu'il y a ce problème-là qu'il a vu d'entrée de jeu, alors que Peter Singer s'en rend compte à la fin, qu'il va dire, eh bien, la morale ne consiste pas à chercher et à aboutir à un résultat heureux. Ça n'est pas d'abord le résultat qui est à considérer. C'est quelque chose qui est très simple, qui nous est donné à travers la raison. C'est justement la conformité de notre acte à des principes qui sont donnés par la raison. Ouais, ça, c'est simple. Il n'y a pas besoin de faire de calcul. Justement, la morale, le devoir, c'est l'endroit où l'on sort enfin du calcul, où l'on sort enfin de la petite, vous voyez, cette mesquinerie qui consiste à en rester à nos intérêts, à nos... On sort de tout ça. C'est extrêmement simple. Mener une vie morale est extrêmement simple. Dur, mais simple. Difficile, mais simple. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il dira plus loin, une action accomplie par devoir tire sa valeur morale, non pas du but qui doit être atteint par elle, mais de la maxime d'après laquelle elle est décidée. Et c'est une action morale, n'est pas une action qui aboutit à un bon résultat. À la limite, l'action peut échouer dans ce monde. Elle peut n'avoir aucun bon résultat, mais simplement, elle a été posée conformément à une maxime, à une règle, à un principe, à un précepte qui est bon en lui-même. Donc vous voyez, ce n'est pas la conformité de l'action à un résultat, c'est la conformité de l'action à une règle qui définit la moralité de l'action. Et une règle très simple qui est donnée, c'est ça ce que va vouloir dire Kant, c'est très simple, cette règle elle nous est donnée très simplement par la raison. Vous avez vu le point de départ? La nature n'a pas pu se tromper, voyez, elle n'a pas pu nous pourvoir d'une faculté impuissante pour nous faire entrer dans ce qui est le devoir. Le plein déploiement pour Kant de notre rationalité. Donc, l'enjeu, c'est de dire, voilà, c'est simple, il y a quelque chose, vous allez voir, c'est pas compliqué, il n'y a pas de calcul, il n'y a plus de calcul. Mais immédiatement, vous voyez, ça veut dire qu'on va rentrer dans des tensions, parce que forcément, on est toujours à calculer dans l'ordre de ce que Kant appelle la prudence, dans l'ordre de ce que Kant appelle l'habileté, qui n'est pas l'ordre de la moralité. Hein. Chez Kant, il y a séparation de la prudence et de la moralité. Je dis ça pour ceux qui ont fait déjà, qui ont étudié déjà un petit peu Aristote. Vous voyez, Aristote, la morale est une morale prudentielle. Mais lui, la prudence chez Kant, c'est effectivement tout ce qu'on va faire pour essayer de parvenir au bonheur. Il dit que ça existe, hein, il ne dit pas que ça n'existe pas. On va le faire, on va le poursuivre. Il dit aussi, il y a ce qu'on fait pour essayer de s'enrichir dans les domaines, vous voyez, des petites techniques qu'on a. Bon, ça c'est l'habileté, ça existe, il ne va pas le nier. Mais ça n'est pas ça, la pure moralité. La pure moralité, la moralité se distingue de la prudence, se distingue de l'habileté. Elle ne réside pas dans un calcul, mais au contraire, dans une conformité à ce qui est au-delà de tout calcul, au-delà de toute circonstance. Ce qui s'impose toujours et partout, sans condition. Et qui est la source même de notre honneur, et de notre dignité. Obéir à une loi qui est plus grande que ce monde, sensible. Obéir à une loi qui est plus grande que toutes les particularités, voyez, qui dépasse les contingences, qui dépasse les circonstances, qui dépasse toutes les conditions, qui dépasse notre sensibilité, et qui dès lors, et on arrive au deuxième point, vous savez qu'on avait mis en avant par rapport au stoïcisme, qui dès lors sera toujours vécu comme une tension. Parce que nous poursuivons notre bonheur, oui, mais voilà que la loi va s'imposer à nous, voilà que le devoir s'impose à nous, et nous demande d'une certaine façon de soumettre notre sensibilité, voire même de briser notre sensibilité pour exercer l'action morale. On ne peut pas faire plus anti-épicurien que Kant. Hein. Il n'y a aucun plaisir dans le fait d'agir conformément à la loi. En tout cas, il n'y a pas de plaisir intrinsèque à cette action, que le plaisir puisse accompagner, etc. Mais vous verrez que même ça, quand le plaisir accompagne un peu trop, quand t'as des soupçons, vous voyez, je dis, là, c'est louche. Alors, première chose, hein, Kant va distinguer agir conformément au devoir et agir par devoir. La vraie moralité se trouve dans le fait d'agir par devoir et pas simplement conformément au devoir. Quelle est la différence? Différence, vous savez très bien. Par exemple, je vais faire l'aumône. Vous voyez, à un pauvre, je lui mets une pièce de monnaie dans son main. Je peux le faire discrètement. Je peux le faire de telle sorte que j'ai une vraie charité et que c'est parce que j'ai d'autres choses importantes à faire que je ne passe pas du temps avec lui. Vous voyez, je peux... Mais je peux aussi le faire par vaine gloire, pour que tout le monde me voit en train de déposer ma pièce. Ah, j'aurais agi conformément au devoir en faisant l'aumône, mais pas par devoir. Je peux respecter les limitations de vitesse uniquement parce que j'ai peur du gendarme. Or, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse, mais ce n'est pas la pureté du devoir chez Kant. Parce que chez Kant, vous agissez là conformément au devoir, mais vous n'agissez pas par devoir. Agir par devoir, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire comprendre que cette limitation de vitesse, vous voyez, par votre raison, est bonne. De telle sorte que même s'il n'y avait pas de gendarme, à la limite, même s'il n'y avait pas de panneau, de signalisation de la limitation, vous respecteriez cette limitation. Parce que vous voyez par votre raison en quoi elle est conforme au bien commun. D'accord? Et donc, c'est parce que vous voyez le bien par vous-même, voyez, que vous allez agir par devoir. C'est très important. Agir par devoir, pour Kant, relève dès lors d'une certaine forme d'autonomie. Et comprenez ici que l'autonomie ne signifie pas qu'il n'y a pas de conformité. Je vais respecter le code de la route. On va dire, ah bah oui, donc t'es pas un rebelle, t'es un conformiste, t'es pas libre. Ça dépend. Si je le respecte parce que j'ai vu qu'il était bon, en lui-même, à ce moment-là, ça n'est pas par hétéronomie, et c'est me soumettant à la loi d'un autre. Vous savez, nomos, hein, ça veut dire la loi, hétéro, c'est l'autre. Hein. Autonomie, ça veut dire que je me donne à moi-même ma propre loi, hétéronomie, ça veut dire que je me soumets à une loi extérieure à moi-même. Agir par devoir, c'est avoir vu par soi-même que cette loi était bonne. Et donc, dès lors, je vais obéir à la loi, mais en la respectant, c'est-à-dire en voyant par moi-même qu'elle est bonne. Et dès lors, je suis autonome. Mais le problème n'est pas obéir ou transgresser la loi du point de vue du devoir. Du point de vue de la prudence, peut-être, du point de vue de l'habileté, peut-être. Mais du point de vue de la moralité, le problème, ce n'est pas obéir ou transgresser la loi extérieure. Parce que la vraie liberté n'est ni L'autonomie n'est ni dans le fait d'obéir, ni dans le fait de transgresser, mais de voir par sa propre raison que c'est cela qu'il faut faire. Oui, à ce moment-là, l'obéissance à la loi coïncide avec la plus grande autonomie, la plus grande liberté. Parce que je ne suis pas en train de me soumettre à quelque chose d'extérieur, je ne fais que me soumettre à la raison qui est en moi-même. D'accord ? Alors attention, hein. Autonomie chez Kant ne veut pas dire que chacun invente ses valeurs. Mais l'autonome, c'est celui qui est à lui-même sa loi. Mais attention, ce n'est pas l'homme en tant qu'il est doué simplement du libre arbitre ou en tant qu'il est inventif qui se donne à lui-même sa loi. C'est la raison, c'est ma raison ou la raison en moi qui me donne la loi à laquelle je me soumets. D'accord ? Donc c'est une autonomie de la raison. C'est donc une autonomie, je pourrais dire, qu'il y a un universel en moi, mais qui n'est pas moi qui invente mes valeurs. Pas de relativisme chez Kant, hein, moral, justement. Il ne peut pas y en avoir d'ailleurs, parce que ce serait passer à côté de la grandeur du devoir. Alors voilà ce qu'il écrit. Conserver sa vie est un devoir. Vous êtes d'accord ? Et c'est en outre une chose pour laquelle chacun a encore une inclination immédiate. Ça, c'est chouette, voilà un truc où le devoir coïncide avec en plus ce qui nous plaît. D'ailleurs, on a une inclination immédiate à conserver notre vie, ça c'est... Oui ? Pourquoi conserver sa vie, c'est un devoir ? Alors, d'après vous ? C'est intéressant, hein ? Ça vous montre d'ailleurs que Kant n'est pas du tout quelqu'un qui serait dans la logique, une logique purement sacrificielle, où ma vie n'aurait aucune valeur. Ou... Ah, pourquoi conserver votre vie, c'est un devoir ? Oui, alors, vous n'êtes pas l'auteur de votre vie, vous l'avez reçu, c'est même pas un point de vue chrétien, hein, je voudrais juste faire la remarque, mais... Vous savez que c'est un principe fondamental dans presque toute l'Antiquité, sans avoir besoin de passer par Dieu, mais c'est que, ayant reçu la vie d'une communauté, vous vous devez à cette communauté avant de vous devoir vous-même. C'est pour ça que, par exemple, Aristote interdit le suicide. Le suicide est un crime contre la communauté. Parce que croire que votre vie vous appartient à vous seul alors que vous ne l'avez pas créée vous-même, vous voyez, c'est une aberration. Notre vie est tissée les unes avec les autres. Si une personne se tue, elle vient blesser non seulement toute sa parenté, toutes les gens qui sont autour d'elle, toutes les... Et ça, c'était une évidence, hein, déjà. Voyez. Donc, par exemple, ensuite, il est normal, si vous n'êtes plus dans une logique de conservation, ça veut dire que vous êtes dans une logique où la vie elle-même, vous la méprisez en vous. Comment est-ce que vous pourriez, dès lors, essayer de la secourir chez autrui ? Si vous méprisez la vie. Donc, y a pas, c'est pas chrétien. Hein. C'est pas du tout chrétien. Ou plutôt, c'est pas du tout chrétien. Non, mais... Faut toujours comprendre une chose, voilà. J'aime beaucoup la phrase, vous savez, de Tertullien qui dit « L'âme est naturellement chrétienne ». Une phrase assez étonnante, hein, parce que c'est surnaturellement qu'on devient chrétien. Mais l'âme est naturellement chrétienne, ça veut dire, malgré tout, elle a été créée par le Christ, hein, bon, et que la réalité, elle est chrétienne dans ce sens-là. Oui. Donc il n'y a pas... Et c'est très important pour nous aussi de ne pas tout de suite se réfugier derrière le fait que « Ah ben c'est chrétien, c'est parce que je suis chrétien ». Non, vous êtes d'abord raisonnable. Si ce n'était pas raisonnable aussi, il faudrait absolument l'abandonner, hein, d'ailleurs. Donc c'est d'abord raisonnable. Et vous l'avez dit d'ailleurs, vous avez posé un principe qui n'est pas un principe chrétien, c'est pas « ma vie m'est donnée par Dieu », mais en tout cas, je ne suis pas l'auteur de ma propre vie, vous êtes d'accord ? Et ça n'est que la fiction individualiste qui nous a fait inventer l'idée que tout m'appartient, mon corps m'appartient, vous voyez, mon corps est à moi. Alors qu'il suffit que je passe devant une jolie femme pour voir qu'il ne m'appartient pas tout à fait, vous voyez, bon... Non, parce que les mêmes qui disent ça, ils savent très bien que ce n'est pas vrai, quoi. Bon, et c'est, même chose pour la vie. Jérémy, oui. Oui, bah vous avez vu que je suis extrêmement... Je ne sais pas si je vous avais déjà parlé de ça. Enfin, je suis très critique à l'égard de la notion d'immortalité, bien sûr, comme telle. Mais il n'en demeure pas moins que ce soit un devoir. Maintenant, ce devoir peut entrer en conflit avec d'autres devoirs peut-être plus grands. Ça, ce n'est pas ce qui est dit ici. D'accord, hein ? Il faut faire attention à ça. D'accord ? Il peut y avoir des circonstances où conserver sa vie... Et alors, je vais juste vous faire une remarque, d'ailleurs, Aristote l'entend de cette façon-là. Quand il dit qu'un homme est prêt, l'homme juste est prêt à déposer sa vie si il ne pouvait la conserver que dans la justice. D'accord ? Mais ce qu'il dit derrière ça, c'est pas que cet homme, tout d'un coup, refuse la vie, hein. C'est qu'il abandonne la vie physique pour conserver aussi une vie morale. D'accord ? Bon, c'était ça qui était... Alors, bien sûr, la vraie question, hein, c'est la question... Alors, c'est peut-être ça que vous voyez après, parce qu'on a beaucoup critiqué l'idée d'autoconservation. Hein, c'est de savoir si ça, c'est ce qui est premier, conserver sa vie. Non. D'accord ? Là, on est d'accord, c'est la fructification de la vie qui est première. C'est pas sa conservation. On est d'accord. La conservation est là pour autre chose qu'elle-même. Maintenant, ça ne veut pas dire que voilà. Le problème, hein, qu'on a critiqué souvent dans ce cours, c'est l'idée que l'autoconservation serait la finalité du vivant. Ça, non. Mais en même temps, c'est normal qu'un vivant se conserve, vous voyez, pour pouvoir déployer sa forme spécifique. Peut-être c'est à ça que vous pensiez, je pense, non? Oui, enfin bon. Bon. Voilà, conserver sa vie est un devoir et c'est en outre une chose pour laquelle chacun a encore une inclination immédiate. Or, c'est pour cela que la sollicitude souvent inquiète que la plupart des hommes y apportent n'en est pas moins dépourvue de toute valeur intrinsèque et que leur maxime n'a aucun prix moral. Mais conserver sa vie, c'est un devoir, mais c'est aussi une inclination immédiate. Souvent, c'est à cause de l'inclination immédiate qu'on cherche à conserver sa vie et pas à cause du devoir. Et donc, vous voyez, le bien, c'est le même extérieur. On va toujours conserver sa vie. Mais malgré tout, ça ne sera pas par devoir. Ça ressemblera à quelque chose. On pourrait faire la même chose. Mais dans un cas, ce sera par devoir. De l'autre, ce sera simplement parce qu'on suit une inclination sensible, une inclination naturelle. Il conserve la vie conformément au devoir, sans doute, mais non par devoir. En revanche, que des contrariétés et un chagrin sans espoir aient enlevé à un homme tout goût de vivre. Alors, vous voyez, il imagine un cas où quelqu'un, chez quelqu'un, l'inclination immédiate aurait disparu. D'accord ? Ce qui prouve bien, d'ailleurs, que ce n'est pas automatique, le fait qu'on veuille conserver sa vie. Il peut y avoir des circonstances qui font que du point de vue de la sensibilité, on n'a plus du tout envie de la conserver. Que des contrariétés et un chagrin sans espoir aient enlevé à un homme tout goût de vivre, si le malheureux a l'âme forte, ça c'est un terme très important, l'âme forte chez Kant, hein, est plus indigné de son sort qu'il n'est découragé ou abattu, s'il désire la mort et cependant conserve la vie sans l'aimer, non par inclination ni par crainte, mais par devoir, alors sa maxime a une valeur morale. C'est beau. C'est-à-dire, au moment où vous avez envie de vous suicider, si là, vous conservez votre vie, là, vous agissez par devoir. Et vous entendez, hein, le discours, parce qu'il y a quand même une même si Kant serait scandalisé, je disais ça, mais il y a quand même ça, quand même une esthétique ici. On retrouve un peu l'esthétique, mais un peu inversée de celle de Caton chez Sénèque. Mais vous voyez, c'est beau. L'âme forte. Oui ?
Mais du coup, on n'est jamais sûr d'agir par devoir si on aime la vie.
Exactement. Alors vous voyez, il va y avoir une ambiguïté chez Kant. C'est, si vous faites les choses du devoir, si vous les faites... alors que c'est hyper dur, que vous en bavez, que vous n'avez pas envie de les faire, eh bien là, c'est signe que c'est vraiment par devoir. Donc vous voyez, il y a un truc qui est quand même bizarre. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, il a pris tellement le contraire de l'épicurisme, si vous voulez, que presque le signe de la moralité, c'est que c'est insupportable. Vous n'avez pas du tout, mais pas du tout envie, c'est que vous êtes dans l'effort. Et oui, c'est le seul témoignage, je dirais, sensible, c'est ambigu, hein, qu'on pourrait se rendre de la moralité. Mais en même temps, Kant ne dit pas, si vous aimez la vie, vous pouvez aussi le faire par devoir. Simplement, ce n'est pas là que ça se manifeste sensiblement, ou vous pouvez dire explicitement le plus. Et donc, effectivement, en dehors de ce cas-là, de ce cas où tout est contraire et vous tenez bon, vous allez contre vos passions, vous allez contre vos envies, vous allez contre les circonstances qui voudraient vous pousser justement là ici à la mort, à vous tuer, vous voyez, bon, hein, et vous tenez, et là, c'est le signe, enfin, il y a une sorte d'évidence que c'est de la moralité. Et en même temps, d'être un peu d'orgueil. Ouais, Kant ne va pas le nier. Et donc, il va dire au fond, bon, une fois qu'il a posé ça, c'est ça qui est très drôle chez Kant, c'est qu'il dit, en fait, on n'est jamais sûr que quelqu'un agit par devoir. Oui, mais vous pouvez rigoler. Vous pouvez dire, quand même, il exagère. Oui, mais ce qu'il veut dire Kant, c'est qu'en fait, c'est pas ça non plus qui est important. Parce que là encore, vous voudriez revenir à un niveau spéculatif. Je veux savoir si. Il dit, on n'est jamais sûr. C'est pour ça qu'il y a toujours un combat, il y a toujours une lutte, il y a toujours un effort, mais on n'est jamais sûr. Vous voyez, il va le dire. Nous ne pourrons jamais, même par l'examen le plus rigoureux, pénétrer entièrement jusqu'au mobile secret. Or, quand il s'agit de valeurs morales, l'essentiel n'est point dans les actions que l'on voit, puisqu'elles peuvent être conformes au devoir sans être par devoir, vous voyez, mais dans ces principes intérieurs des actions que l'on ne voit pas. Alors, juste une petite remarque, Kant m'est avis que Kant n'ignore pas la matière de l'action. Il y a une objectivité, on va voir dans quoi elle consiste, pas à proprement parler une objectivité, mais il y a des choses qui sont en soi mauvaises. Hein, ça c'est, et même pour Kant, peut-être plus encore que pour Thomas d'Aquin, je dirais, parce qu'il y a vraiment, il n'y a aucun droit de mentir, par exemple, chez Kant, même dans les circonstances les plus terribles. C'est-à-dire, vous voyez, vous ne pouvez pas, l'exemple que je prenais, vous protéger des enfants juifs, vous ne pouvez pas mentir chez Kant. Mais, et derrière cette idée-là, il y a quand même l'idée que nos intentions, c'est ça le cœur de la moralité, c'est qu'on ne fait pas ça simplement parce que ça va nous rapporter quelque chose, parce que ça va nous rapprocher du bonheur, mais parce qu'il faut le faire. Mais qui sait, même dans le cas du type qui tient alors même que tout est contraire, qui sait que ce n'est pas avec un reste d'orgueil, avec un reste d'obstination, ou dire, pour emmerder le monde. Hein. Il est censé mourir, il s'obstine. On ne peut pas savoir. Il y a une certaine obscurité de l'intention. Personne ne peut... Alors ça, vous savez, c'est un reste de quoi, ça. Kant, il est quoi? Il est chrétien, mais il est quoi? Il est protestant. Nos chers frères protestants. Parce que le pape, il est allé en Suède, alors il a célébré un anniversaire de Luther. Et alors, dans la déclaration qui a scandalisé beaucoup, il y a une phrase, vous savez, qui dit que l'Église reconnaît les dons spirituels et théologiques reçus à travers la réforme. Alors, il y en a qui disent, c'est un petit peu opposé au Concile de Trente, quand même, ce truc. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a des dons spirituels et théologiques. La réforme, c'est un don spirituel et théologique. On pensait que c'était au contraire, justement, la négation de la plénitude des dons spirituels et théologiques. Alors, oui, mais lisez bien le texte. Il n'est pas dit les dons spirituels et théologiques de la réforme, mais à travers la réforme. Alors vous savez, quand une chose peut passer à travers, c'est là où il y a des trous. C'est ça la thèse peut-être, je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire que il est évident qu'on a reçu par Kierkegaard, par Karl Barth, par Oscar Kuhlmann. C'est une évidence, ce sont des très grands théologiens limités sur certaines choses, choses qu'on avait vues, mais en même temps, ils ont apporté. Il n'y aurait pas eu Balthazar s'il n'y avait pas eu Barth. Il n'y aurait pas eu la redécouverte de la dimension narrative et dramatique de la révélation biblique. On serait resté dans une théologie trop spéculative s'il n'y avait pas eu Kuhlmann. Mais en même temps, vous voyez, la déclaration, elle est extrêmement prudente. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que bien sûr, ils ont signé un truc commun, mais c'est des phrases qui sont assez creuses. Hein. Enfin, c'est ça pour vous dire, à travers, vous pouvez le lire n'importe comment en fait, à travers, ça veut dire à travers. Vous comprenez ? Alors, Kant est protestant, je ne parle pas des évangéliques, parce que les évangéliques, c'est les plus anti-kantiens des protestants. Hein. Genre, eux, c'est au contraire, quand on sent l'esprit et tout, quand on est bien, ça fait plaisir et tout, là, c'est bien. Donc, ce n'est pas du tout ça. Lui, c'est le contraire. Mais ça vient plutôt du luthérianisme, et, parce que c'est une nébuleuse, hein, le protestantisme. Donc là, ça vient du luthérianisme, c'est pour ça que je parlais de la Suède. C'est Luther. Et vous savez, Luther, la grande expérience de Luther, c'est qu'il allait se confesser, et puis quand il ressortait de confession, je ne sais pas, il disait « mince, j'ai oublié de dire ça, mince », et puis il ne se sentait pas en paix. Il ne se sentait pas du tout en paix. Alors il a réfléchi, il s'est même dit, mais peut-être même que se dire « finalement, ça y est, je suis en paix, ça y est, je suis saint », peut-être que c'est même encore un orgueil. Et puis même, de dire, parce que je suis moine, je me rapproche plus de Dieu que ceux qui ne sont pas moines, mais ça, c'est du pélagianisme. Parce que vous croyez que par vos efforts, vous allez... Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et donc, petit à petit, va se développer une théologie qui est la théologie, vous connaissez, juste et pécheur à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, pour Luther, nous ne sommes pas sanctifiés. La sanctification n'est pas quelque chose qui serait personnel à proprement. Nous sommes toujours pécheurs, nous sommes plus que ça, toujours dans le péché, mais nous avons revêtu le Christ. Et donc, en tant que nous sommes chrétiens, nous sommes justes, mais en tant que nous sommes, si vous voulez, nous-mêmes, nous sommes pécheurs. On pourrait presque dire que quand Dieu jette son regard sur le chrétien, du fait du baptême, il voit son Fils, mais qu'au fond, nous-mêmes, ça n'est uniquement à partir des mérites du Christ, si vous voulez, mais nous n'avons aucun mérite ni aucune sanctification personnelle. Dès lors, il faut sans cesse s'abandonner dans un acte de foi, dans une obscurité totale. Et c'est ça, c'est un peu un écho de cela qu'on entend dans ce passage de Kant, puisqu'il est en train de dire, en gros, on ne sait jamais. On ne sait jamais, et même on est presque toujours, toujours se voir mal.